France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le Birobidjan, une terre promise en Sibérie. En 1948, l'État d'Israël est proclamé. Sa vocation, accueillir les Juifs, peuple sans terre, maltraité par l'histoire. Ça, on le sait. Mais sait-on qu'une autre terre juive existe depuis 1928, le Birobidjan, situé dans l'extrême-orient russe, à la frontière de la Chine. Un morceau de taïga sibérienne, pas vraiment le paradis, mais où tous les Juifs, pas seulement ceux du RSS, on peut devenir colons, s'établir dans un lieu à eux et pratiquer leur langue, le yiddish, consacré langue officielle. Devenue région autonome juive en 1934, le Birobidjan, à l'époque, a vocation à devenir une réelle république socialiste soviétique, à l'instar de celles qui furent accordées aux autres minorités, tatars, ouzbeks, kirghizes, ingouches. Cet endroit a attiré des juifs du monde entier, animés par la foi des pionniers et l'idéal socialiste, ou poussés par la pauvreté et cet antisémitisme enraciné dans les populations européennes. Mais le stalinisme et sa succession d'horreurs ont mis à mal son développement au point que certains qualifient aujourd'hui cette terre promise soviétique de gadget. Notre invitée aujourd'hui, Anne Niva, journaliste, grande reporter, autrice du livre « La République juive de Staline » paru chez Fayard en 2013 et qui vient de publier « La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
À perte de vue, la taïga, des bouleaux, des pins, des lacs, des tourbières et des marais. Le froid, bien sûr, et la neige. Cette neige qui efface le relief, durcit les lacs, paralyse la région et les membres. Le thermomètre plonge parfois à 30 degrés au-dessous de zéro. Au printemps, tout renaît, notamment les moustiques, assoiffés de sang. Quant à l'été, il peut être étouffant et humide, avec des épisodes de mousson. Bienvenue au Birobidjan, la région autonome juive officiellement créée par Staline. Ce territoire de l'extrême-orient russe, un peu plus grand que la Belgique, doit son nom à la Bira et la Bidjan, deux affluents du fleuve Amour qui marquent la frontière avec la Chine toute proche. Le Birobidjan, donc. En 2010, les écrivains voyageurs Éric Faye et Christian Garcin se sont rendus dans la capitale, nommée aussi Birobidjan. Et voici ce qu'ils écrivent, d'une seule voix, dans leur ouvrage intitulé « En descendant les fleuves », carnet de l'extrême-orient russe.
En arrivant à Birobidjan, dont le nom est indiqué à la fois en caractère cyrillique et hébraïque sur le fronton de la gare, je marche un peu au hasard, dans l'alignement de la place ornée d'une belle fontaine que couronne une menorah, le candélabre juif à sept branches, emblème de la ville. Birobidjan ne possède pas un cachet particulier, mais respire la douce passivité d'une petite bourgade de province assoupie.
Une immense statue de Lénine, un peu plus loin, veille sur la ville. Moscou est à 6000 km à vol d'oiseau, à 6 jours de train et à 7 heures de décalage horaire, mais nous sommes bel et bien en Russie, aux confins de la Sibérie orientale. Éric Faye et Christian Garcin poursuivent.
Il n'y a pas grand-chose à faire à Birobidjan. Les guides touristiques s'attardent très peu sur cette petite ville, dont il faut reconnaître que le centre d'intérêt principal réside davantage dans l'évocation de son histoire que dans la visite de ses rues.
Alors refermons le dépliant touristique et penchons-nous sur l'histoire. Sous le gouvernement des tsars, le sort des 5 millions de juifs de l'Empire russe était peu enviable. Ils étaient assignés à une zone de résidence à l'ouest du pays, peu ou prou l'Ukraine et la Biélorussie, exclus de l'université, de nombre de professions et victimes de pogroms. Dans ce contexte, on comprend que nombre de juifs participent activement à la révolution de 1917. Pour mémoire, Trotsky, né Bronstein, ainsi que Zinoviev et Kamenev, figures centrales de la révolution, étaient juifs. Mais aussi le cinéaste Sergei Eisenstein, réalisateur entre autres du cuirassé Potemkin, le peintre Marc Chagall, l'écrivain Boris Pasternak, auteur du Docteur Jivago, pour n'en citer que quelques-uns. Tous fervents partisans de la Révolution. La Déclaration des droits des peuples de Russie, adoptée dans la foulée, proclame l'égalité et la souveraineté des peuples de Russie, avec des lois garantissant les droits des minorités. À partir de 1924, les différentes nationalités ou groupes ethniques vivant sur le sol soviétique se voient attribuer un territoire, selon les cas une république ou un oblast, c'est-à-dire une région. L'Ouzbékistan aux Ouzbeks, la Géorgie aux Géorgiens, l'Ingouchie aux Ingouches, etc. La communauté juive du RSS, considérée ici et à l'époque comme une nationalité, doit donc, dans cette logique, disposer également de son territoire, devenir un peuple d'agriculteurs attachés à une terre. Un temps, la Crimée est envisagée. Les organisations juives soviétiques, en particulier le Komzet, le Comité de gestion des terres des travailleurs juifs, y est favorable. Il faut dire que le climat est clément et la terre riche. Quelques 4000 familles juives s'y installent, mais les autochtones s'élèvent contre ce qu'ils considèrent vite comme une invasion. L'antisémitisme ne disparaît pas par décret. Il faut donc chercher une alternative, un autre territoire libre de population. Yossif Brenner, un historien qui vit au Birobidjan, le relate dans le film Birobidjan, le nid est tombé dans les flammes, film du réalisateur belge Guy Marquinan en 2015.
En 1924, on a créé le Komzet, le Comité de gestion des terres des travailleurs juifs. On a examiné la nécessité d'assigner aux juifs des terres pour l'agriculture. Quand le Komzet s'est demandé où on pouvait encore trouver du terrain, le président du Soviet suprême, Mikhaïl Kalinine, a dit « Voyez là-bas, il y a de vastes étendues de terres inhabitées ». Une expédition du Komzet est arrivée ici, a découvert ce territoire immense et désert. Il y avait des réserves minières importantes et un gros potentiel agricole et industriel. Staline ne s'y est pas opposé. Pourquoi l'aurait-il fait ?
Eh oui, Staline s'y oppose d'autant moins qu'il ne voit que des avantages au choix de ce territoire. D'abord, cela lui permet de créer un ghetto éloigné où pourra se concentrer une intelligentsia juive trop libre d'esprit à son goût. Et puis, proposer une alternative au sionisme naissant que le dictateur soviétique considère comme une agence de l'impérialisme est également une idée séduisante. Enfin et surtout, le Birobidjan est parfait pour une raison stratégique, à savoir protéger la frontière extrême orientale des appétits du Japon qui occupe alors la Mandchourie voisine et qui lorgne sur les territoires soviétiques peu peuplés. Le géopoliticien Alexandre Adler, fin connaissance de l'URSS, le rappelait en 1995 sur France Culture.
La menace japonaise, qui est très fortement perçue par Staline, justifie à ses yeux d'installer une espèce de vitrine juive dans cette région difficile pour mobiliser l'opinion juive internationale dans la défense de la Sibérie soviétique. Il me semble que le geste est plus dirigé vers les dirigeants de la communauté juive américaine, vers le monde juif européen, qui a une certaine sympathie pour l'Union soviétique, parce qu'elle a émancipé les juifs, plutôt que vers une sorte de règlement de la question juive. D'ailleurs, tout le monde sait que seul un petit nombre de pionniers partira pour cette région. Il n'est pas question quand même, à cette époque, d'y transférer la majorité des 4 millions de juifs soviétiques.
Et le tour est joué. En 1928, le district autonome du Birobidjan est créé à l'initiative de Staline et de Kalinine. L'État soviétique offre des terres et le voyage en train aux Juifs qui souhaitent s'y installer. Alors, l'émigration commence. En dépit d'un décret pris par Lénine en juillet 1918, qui met hors la loi les pogromistes et tous ceux qui fomentent des pogroms, la situation de nombreux Juifs soviétiques reste soumise à des flambées de violences racistes. Le Birobidjan apparaît alors comme une solution, comme en témoigne Valentin Pasmanik, journaliste et écrivain dans le film Birobidjan, le nid est tombé dans les flammes.
Eh bien, mon père a dû partir parce que cela aurait pu mal se terminer pour lui, d'après ce que j'ai compris. Et puis maman a dû partir aussi. L'agitation était forte et à compter de 1928, des convois ont commencé à s'organiser. Honnêtement, tous ces pogroms visaient les Juifs. Et puis les gens voulaient avoir enfin leur petit morceau de terre pour pouvoir y vivre en paix et ne pas attendre le prochain camion avec ces salauds qui viendraient de Kiev pour les massacrer ou non. Ils ont réfléchi, sont arrivés ici. En tout cas, mon père m'a dit « c'est bien ici », même s'il n'y avait en principe aucun autre endroit où vivre.
En En 1934, le Birobidjan devient officiellement région autonome juive, avec le yiddish comme langue officielle. Disons que c'est l'acte officiel de naissance de ce territoire. Et c'est à ce moment-là que les autorités lancent des opérations de propagande pour attirer les juifs du RSS et au-delà. Démarches relayées par les partis communistes des différents pays. Aux États-Unis, plusieurs organisations, dont l'Ambidjan, le Comité américain pour la colonisation des juifs au Birobidjan, présidé un temps par Albert Einstein, en font la promotion et récoltent des fonds pour le développement de cette région. Et jusqu'à la fin de la guerre, l'URSS et Staline sont largement soutenus outre-Atlantique pour leur lutte contre le nazisme et apparaissent comme les sauveurs des juifs. Alors un vent d'espoir souffle, et on y croit à ce projet. C'est le cas du Crapouillot, par exemple, journal français d'inspiration anarcho-pacifique, dans un numéro entièrement consacré aux Juifs en 1936.
Si le Birobidjan se développe, réussit, peut-être deviendra-t-il un foyer d'attraction pour les travailleurs juifs du monde entier, plus paisible qu'en Palestine. Il se transformera alors en République autonome fédérée, ce qui sera sa consécration. Ainsi, l'URSS a su résoudre la question juive dans le cadre du socialisme. C'était difficile dans ce pays qui inventa les pogroms.
Au début des années 30, des juifs arrivent par milliers. Du RSS, bien sûr. D'Ukraine, notamment, de Biélorussie, de Lituanie. Mais aussi des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de Pologne, d'Argentine même. En France également, des juifs communistes sont de l'aventure. Des voyages groupés sont organisés par l'EPC. Et voici deux témoignages à ce sujet. Gela Melman est une juive polonaise qui a immigré à Paris à la fin des années 20. Avec son mari et leur tout jeune fils, Charles, ils partent au Birobidjan en 1932. Leur groupe est constitué de 50 personnes, dont 11 enfants. On entend ici successivement Charles Melman, donc, dans le film Birobidjan, Birobidjan de Marek Alter, réalisé en 2015, puis sa mère, Gela, en 1995, au micro de France Culture.
Mon père, pour l'état civil, se prénommait Moïse. Pour ses camarades qui partageaient le même combat pour obtenir une réforme sociale, il se prénommait Max. Il prit la tête d'une colonne de pèlerins partis pour la terre promise. Il s'agissait de plus de 300 familles, 1000 personnes environ, venues de toute l'Europe et aussi de l'Amérique, aussi bien du Nord que du Sud, et qui s'attendaient, voulaient, souhaitaient trouver là-bas la terre rêvée et promise depuis si longtemps, c'est-à-dire Birobidjan, la République socialiste autonome juive.
Birobidjan, c'était un pays socialiste qui nous a beaucoup tenté. Et deuxièmement, Birobidjan spécialement, c'était un endroit où il fallait développer. La terre, elle était délaissée. On nous a dit que nous pouvons amener deux enfants, en effet, nous avons un bébé d'un an. On nous a dit qu'il y a des crèches les meilleures du monde et puis nous pourrons aider à construire le socialisme en étant des juifs productifs. C'est ce que nous avons rêvé, travailler la terre, puis bâtir, etc.
Alors, qui sont-ils ces premiers pionniers? Eh bien, certains sont des militants venus ici construire le socialisme réel. Nombre d'intellectuels, artistes ou écrivains en sont. D'autres sont de pauvres gens, des juifs miséreux qui n'avaient rien à perdre que leur chaîne et un monde à gagner en venant ici, dans cette contrée, bâtir tout à la fois un pays et un destin. Les premiers temps demandent optimisme et énergie, parce que tout est à faire. Bâtir des logements, défricher les terres, construire les routes. Il faut s'acclimater à la région, s'enduire la peau de mixture qui empeste pour repousser les moustiques l'été, s'habituer au froid glacial l'hiver. Dans le film Birobidjan, Valentin Pasmalik relate les débuts de ses parents sur place.
Ils ont d'abord vécu dans un baraquement dans le quartier de la Poste, loin de tout. Maman avait parfois les cheveux collés à l'oreiller par le gel. C'est dire comme il faisait bon vivre ici. Puis on a eu un appartement, des moustiques, mais ils pouvaient s'estimer heureux. Ils étaient restés en vie et il y avait du travail.
En vie, oui, quand tant d'autres meurent dans les pogroms, quand tant d'autres vont bientôt disparaître dans les camps nazis. Il n'empêche, certains parmi les plus riches, donc ceux qui ont le choix, des Américains notamment, repartent aussi vite qu'ils sont venus. Trop dur, trop froid, trop chaud, trop loin, trop décourageant. Mais d'autres, au contraire, se retroussent les manches, mettent leur force de travail au service du bourg qui s'étend autour de la gare et qui devient peu à peu une ville ou sur les terrains défrichés et labourés. Le premier kolkhoz, Waldheim, est créé en 1929. Il sera le plus fameux de l'endroit et, dit-on, l'un des plus exemplaires de l'Union soviétique. Le film de 1936, Les chercheurs de bonheur, décrit le voyage de ces migrants, puis l'installation réussie en Extrême-Orient soviétique d'une famille juive de Brooklyn fuyant la Grande Dépression. C'est un élément emblématique de la propagande de l'époque. Le soleil brille, les visages sont radieux, on lit des bottes de blé en chantant, on décharge le poisson des bateaux avec allégresse, on le fait sécher en souriant. Bon, la réalité n'est sans doute pas si rose, mais l'ardeur ne manque pas. Isaac Becherman, lui, arrive au Birobidjan en 1931 en provenance d'Argentine avec 50 autres personnes et il y est resté. Il témoigne dans le film belge Birobidjan.
On voulait construire une région autonome juive. C'était le but. Nous avait dit en Argentine qu'on aurait des terres tant qu'on en voudrait. Prenez-vous en main, construisez-vous un pays. Et on travaillait aux champs, on a construit des logements parce que c'était un désert. Il n'y avait presque pas de population. Il y avait un vague patelin, on a bâti autour. On pêchait du poisson pour survivre parce qu'on croyait que dans l'avenir s'édifierait ici une région autonome juive.
De fait, la région se développe, accueille de nouveaux habitants. Tous ne sont pas juifs, ceux-ci ne seront d'ailleurs jamais majoritaires. En 1935, on compte 12 kolkhozes dans la région autonome qui s'industrialisent. On extrait de l'étain, on fabrique de la pâte à papier. Des usines, des écoles sont construites. On y enseigne en yiddish. Un théâtre juif voit le jour qui donnera bon nombre de pièces dans cette langue, ainsi qu'une bibliothèque qui, à la fin des années 30, est l'une des plus grandes bibliothèques de livres en yiddish au monde. Deux journaux dans la même langue paraissent, dont le Birobidjan Stern, l'étoile du Birobidjan, lancé en 1938. Et une synagogue, bien sûr, est bâtie. Elle est toujours là. Modeste Ishba peinte en bleu qui ne se distingue pas des maisons environnantes. Parce que Moscou veut bien de la culture juive, mais pas de la religion, bannie par les bolcheviks. L'usage de l'hébreu, considéré comme la langue de la synagogue, est d'ailleurs totalement proscrit. Soutenu par Moscou, le Birobidjan est salué par la presse soviétique. En 1934, précise Anne Niva dans son ouvrage « La République juive de Staline », le quotidien communiste Naï Pressé consacre plus de 70 articles au Birobidjan. Et en France, on n'est pas en reste. La correspondance internationale du 9 juin 1934, un billet hebdomadaire édité sous la responsabilité de l'Internationale communiste, ne cache pas son enthousiasme.
La proclamation de la région du Birobidjan, extrêmement riche en trésors naturels, se développe rapidement, tant au point de vue agricole qu'industriel, en tant que territoire socialiste juif autonome. Il fera une impression profonde et durable sur les masses de travailleurs juifs dans le monde entier. La proclamation du Birobidjan en tant que territoire autonome a liquidé l'une des dernières anomalies de l'existence juive dans l'Union soviétique. Le fait qu'un peuple de près de 3 millions d'hommes ne possédait aucune unité administrative d'État dans la famille des peuples soviétiques.
Sowjetenmacht tot Land gegeben, bei der Rede neuem Leben. Biro, 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 Bijan. Thank you.
Ren, viel der Ried wie der Geboren. Biro, 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 Bijan.
Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui Birobidjan, une terre promise en Sibérie.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Birobidjan, terre promise, mais qui ne tient pas la promesse. Non, elle ne connaît pas l'essor attendu, non les objectifs du plan. L'installation de 100 000 familles juives entre 1927 et 1936 ne sont pas atteints. En 1939, on compte 18 000 juifs pour 109 000 habitants. Mais même si tout ne se passe pas comme prévu, même si les lendemains ne chantent pas toujours juste, nombre de colons savent gré à Staline d'avoir créé cette région. Pour ceux qui ont foi en l'URSS et en l'édification d'une société communiste, le petit père des peuples ne peut pas être rendu responsable des problèmes ou des difficultés rencontrées sur place. Témoin ce récit du psychanalyste Charles Melman, qui a vécu 2 ans au Birobidjan quand il était enfant.
Mon père écrivait tous les jours une lettre en yiddish au camarade Staline pour lui dire que son projet était magnifique mais que la réalisation présentait quelques défauts. Au bout de quelques mois, il fut convoqué par l'officier du KGB qui renversa sur la table le tiroir qui contenait toute cette correspondance ouverte et qui, malheureusement, n'était jamais arrivé au génial camarade Staline.
Dessillés, Max Melman et sa famille s'empressent de quitter le Birobidjan. Et ils font bien, car la machine soviétique commence à dévorer sa population. Juifs ou non-juifs disparaissent en masse dans les grandes purges qui saignent l'URSS de 1936 à 1938. Quelques 800 000 morts dans tout le pays, plusieurs milliers pour le seul Birobidjan, dont les dirigeants politiques deviennent suspects, en raison de leur engagement pour des causes jugées plus juives que soviétiques. Le chef du gouvernement de la région autonome, Yossif Lieberberg, est condamné à mort. Le leader du parti, Matvei Rafkin, est envoyé au Goulag jusqu'en 1956. Des membres du parti, des intellectuels, des enseignants, des journalistes, devenus du jour au lendemain des ennemis du peuple, sont arrêtés, envoyés en camp ou en prison quand ils ne sont pas simplement fusillés. Isaac Blecherman, arrivé d'Argentine en 1931 avec un groupe de 50 personnes, reconnaît avoir, comme beaucoup d'autres, était trop crédule. On avait la foi, dit-il. Interrogé en 89, il est alors le seul de ce groupe encore en vie. Beaucoup ont été arrêtés. On n'a jamais vraiment su pourquoi, ajoute-t-il. Ensuite, la Grande Guerre patriotique, selon l'expression consacrée en Russie, contribue elle aussi à vider le Birobidjan. 12 000 habitants de la région partent sur le front, 5 000 seulement en reviendront. Pendant cette guerre est créé à l'initiative du pouvoir le comité antifasciste juif. Ses membres y voient un moyen de faire exister et prospérer la vie culturelle juive. Pour le pouvoir soviétique, c'est surtout un instrument de propagande vers l'Occident. Ce comité est présidé par le grand acteur Solomon Mirols, qui s'est produit à plusieurs reprises au théâtre de Birobidjan. Sa mission, mobiliser les juifs à travers le monde en faveur de l'URSS et récolter des fonds pour l'effort de guerre soviétique. Et c'est un immense succès. Mirols et les responsables de ce comité font une tournée triomphale aux États-Unis, en reviennent avec des centaines de milliers de dollars. À l'époque, Staline est un allié. En revanche, il n'est pas vraiment un bon camarade pour ses concitoyens, loin s'en faut. Avec lui, l'imprévisible, le paranoïaque, l'assassin, rien ne dure. L'historien Laurent Ricaire le rappelle dans Le Monde diplomatique en décembre 1995.
Les espaces de liberté concédés pendant la guerre pour cause de défense de la patrie soviétique fondent alors comme neige au soleil. Le signal du retour à une stricte orthodoxie idéologique est donné en 1946. Elle vise d'abord les intellectuels et la vie culturelle. La lutte contre les influences étrangères et l'individualisme petit bourgeois est lancée. Puis ce sera le combat contre le nationalisme, non russe, et d'un pas allègrement franchi à partir de 1949, contre le cosmopolitisme, un euphémisme stalinien pour désigner le nationalisme juif.
Le président du comité antifasciste juif, Solomon Mirwals, est assassiné en 1948. Ses dirigeants sont éliminés au cours de la même année. Début 49, la Pravda publie un article dénonçant, je le cite, « des cosmopolites effrénés et malveillants, des profiteurs sans racines qui empoisonnent notre culture prolétarienne avec leur puanteur ». Même entre 46 et 48, le Birobidjan connaît une embellie en matière d'immigration. Une dizaine de milliers de pionniers s'installent, mais une sombre page s'écrit également pour la région autonome. Au nom de la lutte contre le cosmopolitisme et le nationalisme bourgeois, logoré soviétique, les publications yiddish et l'enseignement de la langue sont interdits et le théâtre est fermé. Pire, un énorme autodafé détruit la quasi-totalité de l'exceptionnelle collection de livres en yiddish de la bibliothèque. Elle contenait 37 000 volumes, 4 000 seulement échappent aux flammes. Le directeur recevait régulièrement une liste de livres à brûler, se rappelle la bibliothécaire. Et il ne pouvait que s'exécuter. Mais il a quand même trouvé le courage de sauver quelques-uns des ouvrages les plus précieux en les cachant chez lui. Valéry Gourevitch, vice-gouverneur de la région, témoigne de cette époque dans le film Birobidjan de Georges Marquinan.
À la différence des autres régions, la répression qui a frappé la région juive entre la fin de la guerre et la mort de Staline ne visait pas simplement des gens, mais une identité, une culture et un enseignement national. Toutes nos écoles ont été fermées. Ma mère a étudié le yiddish dans un des derniers lycées où on le pratiquait. Quand je suis né, le yiddish ne circulait plus que dans la rue. La politique de l'État visait la création de l'homme soviétique. Dès lors, plusieurs générations n'ont pas appris leur langue, ignorant leur histoire et leurs traditions.
Le temps de l'assimilation, de l'acculturation, est venu pour le Birobidjan, qui perd de plus en plus son caractère juif. Beaucoup oublient alors qu'ils sont juifs. D'abord parce qu'ils font passer leur identité politique avant leur judéité, cherchant à devenir ces hommes nouveaux, débarrassés des scories de l'origine ou de la religion. En outre, les juifs du Birobidjan sont issus de différents pays, ce qui ne favorise pas une grande cohésion. Et puis, le territoire est trop éloigné pour recevoir les programmes radio d'Israël à l'intention de la diaspora. Tout cela a facilité l'assimilation voulue par Moscou. Résultat, en 1956, il ne reste quasiment rien de juif au Birobidjan. Et on en trouve confirmation dans les souvenirs qu'a couché sur le papier l'épouse de l'ambassadeur israélien en Russie après une visite au Birobidjan avec son mari.
Bien sûr, ça ne me gênait pas de voir des gens qui pensaient être heureux. Mais cela me choquait de voir mon peuple coupé de ses origines. Mon cœur pleurait sur le sort de ce peuple après que 6 millions d'entre eux avaient été abattus. Ici, des dizaines de milliers de Juifs étaient en train de se muer en une espèce d'hermaphrodite, appelée citoyen du Birobidjan.
L'ambassadeur et son épouse, attristés et déprimés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, écourtent leur visite. La population est en déclin, 218 000 habitants en 1990, 185 000 en 2007, 163 000 en 2021, dont près de la moitié vivent dans la capitale. 1 à 2 % seulement sont juifs. À partir de la mort de Staline en 1953, beaucoup ont émigré en Israël. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du Birobidjan ? D'abord, la région, même si elle n'est jamais devenue république, faute d'une population suffisante, existe toujours. Et sa judéité, elle, connaît depuis quelques dizaines d'années une forme de renouveau. Bon, modeste, certes, paradoxal aussi, mais réel. Dans le film Birobidjan, une terre juive en URSS, diffusé à la télévision en 89, des écoliers de l'école numéro 3, foulard rouge autour du cou, des pionniers, annonnant en cœur du yiddish, penchés sur leurs livres au caractère hébraïque. Des paroles qui disent... La place Lénine est très belle. Birobidjan est connu pour la qualité de ses produits. Il y a une centrale électrique, une usine de chaussures, une usine de textiles et diverses activités. Les années 90, en effet, ont été celles d'une prise de conscience. La culture juive, qui est la marque du Birobidjan et qui ne doit pas disparaître. L'école numéro 2, qui avait été la dernière fermée par les autorités en 49, rouvre ses portes. Nombre de Birobidjanais, juifs ou non, russes ou parfois chinois, apprennent aujourd'hui le yiddish à l'école ou à l'université. Une synagogue de belle taille cette fois et un centre communautaire ont été érigés en 2004. Un festival de la culture juive s'y déroule tous les deux ans. Dans le film qu'il a consacré au Birobidjan en 2012, l'écrivain Marek Alter, de culture juive lui-même, croise des habitants qui aiment passionnément leur ville et leur vie là-bas. En voici deux exemples, successivement de la part de Valeria Kogan et de Paulina Kleinerman.
Elle peut être aérée, lumineuse aussi. Elle peut être verte et aussi bleue quand le ciel est bleu. Mais elle n'est pas grise, comme on dit en yiddish. C'est-à-dire, notre ville Birobidjan est jeune, belle et bonne. J'ai même trois frères qui vivent en Israël. Reste avec nous, Paulinka. Viens vivre ici avec ta famille. Non, je leur dis non. Je ne quitterai pas mon Birobidjan. J'aime ma ville. Mon si cher Birobidjan, je ne te quitterai jamais. Mon très cher Birobidjan.
Il arrive aussi, et ce n'est pas exceptionnel, que les Birobidjanais qui avaient émigré en Israël reviennent. Depuis 2007, la région autonome est la troisième destination du retour en Russie de ceux qui avaient émigré en Israël. Parce qu'ils ont le mal du pays, ne se sentent pas intégrés dans la société israélienne, dont ils ne connaissent ni les codes, ni la langue, où ils ne vivent finalement qu'entre Russes. Tous les départs pour Israël ne m'ont jamais semblé être la conséquence d'une mûre réflexion, mais des actes instinctifs, de surréaction par rapport à la situation désastreuse des années 90, estime Tatiana Fein, docteur en sciences de l'éducation et enseignante de langue à Birobidjan. En Israël, les Russes restent entre eux, regardent les chaînes de télévision russes par satellite, dit-elle. La peur de la guerre, des attentats, est aussi un puissant moteur pour regagner les paisibles terres de Sibérie. Ici, d'autant que le voisin chinois est amical. Le Birobidjan d'aujourd'hui est-il toujours un territoire juif? Les juifs sont minoritaires, très minoritaires même. Patrick Braun et Jean Sanitas, auteurs du livre « Le Birobidjan, une terre juive en URSS », soulignent que, si nombre des habitants ne le sont plus, beaucoup se sentent, voire se disent, juifs. Par imprégnation, pourrait-on dire. La persistance du yiddish à l'école, à la radio, dans les pages du Birobidjan Stern, en est pour eux la preuve. A contrario, des historiens n'hésitent pas à propos du Birobidjan à parler d'échec. Pour David Mühlmann, auteur du livre « Territoire de l'exil juif », l'expérience du Birobidjan n'est plus, depuis les années 50, une expérience juive, mais une expérience administrative. L'échec était prévisible parce que c'était une construction d'État, pas la construction de la communauté juive, explique-t-il. Alexandre Adler, qui fut un spécialiste de l'URSS, c'est plus radical encore. Le Birobidjan, ça n'a jamais été qu'une scène de théâtre, parfois sanglante, parfois amusante. Mais, pour finir sur une note un peu plus optimiste, tournons-nous vers Marek Alter, qui clôt ainsi son film Birobidjan, Birobidjan.
J'ai toujours pensé qu'Hitler avait perdu ses deux paris. Effacer la présence des Juifs de la surface de la Terre et les transformer en autre chose que des hommes. Je croyais cependant qu'il avait réussi sur un point, la destruction de ma civilisation, la civilisation yiddish. Or, là-bas, au Birobidjan, à la frontière chinoise, ce monde vibre encore comme l'écho lointain d'une civilisation blessée.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
À la découverte de Birobidjan et avec Anne Niva. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes journaliste, grand reporter avec un E à reporter. Vous connaissez très bien la Russie, vous avez effectué nombre de reportages, vous êtes d'ailleurs parfaitement russophone. Votre dernier reportage en date a débouché sur un livre publié chez Flammarion, intitulé « La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre ». Nous en parlerons bien sûr. Mais avant cela, revenons un peu sur le Birobidjan tout de même, qui a lui aussi
fait l'objet... Mais vous allez voir, tout est lié.
Oui, justement, qui a fait l'objet d'un de vos livres également en 2013, « La République juive de Staline ». Avant de voir comment tout est lié, je rappelle juste ce que nous disions pendant le récit, ces deux phrases de David Mühlmann, auteur du livre « Territoire de l'exil juif ». Il dit « L'expérience du Birobidjan n'est plus depuis les années 50 une expérience juive, mais une expérience administrative. L'échec était prévisible parce que c'était une construction d'État, pas une construction de la communauté juive. » Est-ce que vous partagez cette vue ?
Oui, oui, je trouve que c'est une analyse très sage. Maintenant, effectivement, bon, ça m'a beaucoup plu de me replonger dans l'ambiance grâce à votre récit de ce que j'ai découvert quand j'y suis allée pour écrire ce livre. Mais évidemment, on peut se poser la question si c'était une plaisanterie Staline, si c'était sérieux, ce sion soviétique, ce confetti juif dans la taïga, est-ce que c'était un mirage ? Qu'est-ce qu'il représente pour les gens, finalement, sur place. C'est avec cette question que je me suis rendue sur place. Et bien sûr, pour ceux qui y sont allés, pour ceux qui ont des ancêtres, pour ceux qui y sont restés, eh bien, pour eux, on ne peut pas répondre que ça n'a pas existé. Ils ne répondent pas que ça n'a pas existé. Ils ont nourri un rêve. J'ai même rencontré, je me rappelle, complètement par hasard sur le terrain à Birobidjan, une femme française. Tout d'un coup, j'ai entendu parler français sur la place Lénine. Rachel Kamelgarn, qui avait plus de 70 ans à l'époque, quand j'y étais, et qui allait pour la première fois parce que son père, communiste français, lui en avait parlé de Toulouse quand elle était petite, et il n'avait jamais pu y aller. Mais son père et sa mère avaient caressé le rêve d'y aller. Ses parents décédés, elle s'y est rendue elle-même pour se rendre compte sur place. Donc, bien sûr que c'est pas la même chose quand on demande concrètement aux personnes et quand on analyse que ça a été. Bien sûr que ça a été un échec. Bien sûr que c'était une construction d'un État soviétique qui ne pensait qu'à une chose, c'est à sa politique de nationalité. Et dans ces différentes nationalités au sens soviétique du terme, il y avait la nationalité juive. Et puis il y avait surtout aussi le fait que cette terre, comme vous l'avez dit, il fallait bien l'utiliser à quelque chose. Elle était marécageuse et c'était bien intéressant d'avoir des colons à qui on promettait monts et merveilles qui allaient la travailler.
Est-ce que vous avez eu le sentiment de rencontrer des gens heureux ? Est-ce que globalement, quand vous êtes allé, vous vous êtes dit, voilà des gens qui vivent, qui sont heureux, quoi ?
Oui.
Bon, j'imagine, il y a tout, mais
oui. Forcément. J'y suis allée. Donc, pour ce livre, c'était 2012-2013, mais je suis retournée en 2017, puisque dans un autre livre qui s'appelle « Un continent derrière Poutine », avec un point d'interrogation à la fin, que j'avais publié au Seuil, j'étais retournée au Birobidjan pour essayer de me rendre compte si, justement, le Birobidjan est une terre russe comme une autre. Eh bien, oui. Les gens, ils sont comme au fin fond du Birobidjan, c'est comme dans le fin fond de la Gloubinka, la province profonde russe. C'est ça qui est étonnant. Donc il y a des gens heureux, des gens malheureux, mais il y a surtout des Russes, c'est-à-dire des citoyens de la Fédération de Russie, qui sont profondément patriotes. En premier lieu, et patriotes de la Fédération de Russie. Alors là, je ne suis pas retournée depuis la guerre, mais je suis sûre qu'il y aurait des patriotes de la guerre, mais qui sont des patriotes de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, quel que soit en fait le moment où j'ai été au Birobidjan, j'ai senti, notamment Tatiana Fine, que vous citez dans le récit, j'ai senti ce que je sens dans beaucoup de provinces profondes russes, c'est-à-dire une impression, à tort ou à raison, mais que Vladimir Poutine reste pour ces personnes un phare, une stabilité. C'est-à-dire que tant que Vladimir Poutine est là, pense-t-il, eh bien, la Fédération de Russie ne tombera pas dans le chaos.
Ouais, ça explique beaucoup de choses. On y reviendra à Poutine, évidemment. Donc, ce Birobidjan est créé dans les années... avant la guerre. Puis après la guerre, il y a la création de l'État d'Israël.
Oui.
Il y a un paradoxe, là. Il y a un paradoxe. La terre des Juifs, officielle après la guerre, c'est Israël à partir de 1948. Mais il y a cette autre terre juive. Comment gérer le paradoxe ?
Si vous voulez, les soviétiques, ceux qui ont eu l'idée de cette, comme vous l'avez très bien expliqué, de cette terre juive, il y avait eu d'autres idées. Il y avait eu l'idée de la Crimée, il y avait eu l'idée du Luganda, il y avait eu des tas d'idées utopiques. Eh bien, les soviétiques l'ont fait. Mais une fois de plus, ça correspondait à une politique qui était une politique soviétique de l'époque. Alors, aujourd'hui, certains se posent la question d'un certain Disneyland juif. J'ai entendu. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on y retourne, on se rend compte que l'identité juive devient presque du folklore. Ouais. Et la région du Birobidjan aujourd'hui, qui a gardé, c'est vrai, ce nom n'a pas changé, elle essaye de se démarquer des autres régions russes, des autres oblasts, puisque la Russie est quand même encore gigantesque, elle est encore le premier pays du monde, avec cette identité juive. Ça devient comme une espèce d'objet de tourisme, d'abord pour des Américains, des Allemands, des gens qui viennent chercher leurs racines, effectivement, mais aussi pour des personnes qui, là je parle avant la guerre, hein, avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pour des gens qui voudraient visiter la Fédération de Russie d'aujourd'hui et y trouver quelque chose presque de folklorique. Ouais. Mais avant la création d'Israël, les plus hauts représentants du Kremlin, de l'État soviétique, Gromyko, le ministre des Affaires étrangères, étaient véritablement en faveur de la création d'Israël. En plus de ce sion soviétique. Ouais. Et puis ensuite, ils ont changé d'avis, bien évidemment. Il y a eu ce complot des blouses blanches contre Staline, et à partir du début des années 50, bien sûr, tout a changé par rapport au Birobidjan, en Russie même.
Avant de parler de la Russie et l'Ukraine d'aujourd'hui, quelle était votre motivation personnelle de faire ce reportage?
Pour y aller.
Ouais, parce que déjà vous êtes une spécialiste de la Russie, donc j'imagine que naturellement ça vous a emmené vers cette curiosité-là. Il y a d'autres raisons?
Oui, non, mais c'est ça. J'ai habité en Russie. La première fois que j'ai été de ma vie en Russie, je crois que c'était 89 ou 90, donc j'avais 20 ans. C'était juste les deux dernières années avant la dislocation de l'URSS, de 1991. Puis ensuite, évidemment, j'en ai fait l'objet de mes études. Et puis j'ai habité en Russie comme débutante jeune correspondante de presse. Et là, je me disais, il faut que j'aille dans ce Birobidjan, parce que justement, la dénomination de cette oblast n'a pas changé depuis sa création, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des juifs? Qu'est-ce que ça veut dire être juif au Birobidjan? C'était tout simplement parce que je voulais aller y faire concrètement du reportage. Donc, j'y suis allée. Et une fois que j'y suis allée la première fois, c'est là qu'on m'a dit, et vous l'avez dit à la fin du récit, je me suis rendu compte du nombre de personnes du Birobidjan, d'habitants du Birobidjan, la plupart juifs bien sûr, ou juifs par alliance, qui avaient émigré en Israël. Et là je me suis dit, si j'écris un livre sur le Birobidjan, il va falloir que j'aille en Israël. Et j'ai été en Israël pour ce livre. C'est ça qui a été formidable pour mon livre sur le Birobidjan, donc la République juive de Staline. Il commence par des chapitres en Israël. Parce que en Israël, j'ai passé mon temps à parler russe et à habiter chez des gens du Birobidjan qui avaient émigré en Israël. Et pour beaucoup, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à Israël aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils sont plus soviétiques. Voilà, ils sont plus soviétiques que juifs. Et ils retournent. Donc c'est une espèce d'alliance à l'envers.
C'est ça.
Tout à fait.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Anniva, il y a quelques minutes, quand je présentais le titre des deux livres que vous avez écrits, donc Birobidjan et la guerre Russie-Ukraine, en ce moment, vous avez dit immédiatement, mais c'est lié.
Oui, oui, parce que finalement, ce contrôle que voulait imposer l'État soviétique aux Juifs de son territoire avant même la création d'Israël, eh bien, cette volonté de contrôle, cette obsession du contrôle, on la retrouve aujourd'hui dans cette invasion par la Russie de l'Ukraine. Le fait que, voilà, alors maintenant, ça n'existe plus cette ligne dans le passeport intérieur de de la Fédération sur Russie qui s'appelle la nationalité. La nationalité, c'est-à-dire l'origine ethnique du citoyen, qui était présentée du temps de l'Union soviétique comme une discrimination positive. C'est-à-dire quand on inscrivait cette nationalité, c'est-à-dire on s'autoproclamait, enfin on se déclarait juif, tatar, etc. Ça voulait dire qu'on avait droit à la langue, à la culture, etc., etc. Bon, mais en fait, le but, c'était évidemment d'identifier et d'assimiler. Et là, on le voit, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre avant tout pour que l'Ukraine ait droit à son existence en dehors de la Fédération de Russie. Et une des raisons profondes pour lesquelles Vladimir Poutine a commencé cette guerre, c'est parce que l'idée même d'un État ukrainien indépendant, qui lui échappe.
Et qui pourrait s'arrimer à l'OTAN.
Et qui serait, voilà, qui aurait envie de s'arrimer à l'OTAN, à l'Union européenne, est quelque chose d'absolument, à ses yeux, insupportable.
Inacceptable.
Donc voilà le lien pour moi. Et la nécessité d'aller sur le terrain dans les deux cas.
Ben oui. Alors justement, je voudrais vous poser une question qui me trotte dans la tête, moi, depuis février 2022. Vous vous souvenez, on a dit, mais c'est ce type, Poutine, ce type est fou, il va appuyer sur le bouton nucléaire. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était quelqu'un de totalement rationnel, que en menant cette guerre, il se place en leader d'un monde opposé aux démocraties qu'il qualifie de molle, qui est pour lui un anti-système.
L'Occident collectif.
L'Occident collectif. Que cette guerre, il l'amène, c'est long, ça va moins vite que prévu, mais il l'amène quand même et ça avance. Tout ça est très cynique, mais surtout très rationnel. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Dieu merci, Vladimir Poutine, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore appuyé sur le bouton nucléaire.
Manifestement, pourtant, c'est pas ça.
Écoutez, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais je vais vous répondre sur sa rationalité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je reviens encore récemment de Russie, où beaucoup de Russes qui sont en colère. Je parle là des Russes pro-Poutine et pro-guerre. Ouais. Ils sont en majorité. Il y en a aussi qui sont anti-Poutine et anti-guerre. Hein. Ils sont aussi présents dans mon livre. Mais les pro-Poutine et pro-guerre sont en colère parce qu'ils sentent bien, ils voient bien que cette guerre, ils n'arrivent pas à la gagner.
Bien sûr.
Ils voudraient la gagner. Et donc, beaucoup disent, osent dire, que Vladimir Poutine n'est pas assez fort, n'y va pas assez loin, et que justement, ils aimeraient que Vladimir Poutine appuie sur le bouton, qu'il y aille. Parce que, en fait, ça explique à leurs yeux le fait que cette guerre n'est pas encore gagnée. Vous comprenez, Fabrice, c'est ça qui est étonnant chez les Russes. Alors, pour ce qui est de Vladimir Poutine, je pense que l'explication de dire qu'il est fou est une explication trop facile.
Mais
ce serait presque l'excuser. Or, je n'ai pas envie d'excuser Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'est pas fou, il est dans sa propre rationalité, qui n'est pas la nôtre. Il est dans son monde, qui n'est pas le nôtre, et il met en valeur, justement, en exergue des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et ça lui est égal que nous ne les partagions pas, parce qu'il se sent justement suivi par une grande majorité de sa population et des États du monde entier, qu'il appelle les États du Sud global, dans ce rejet des valeurs occidentales.
Une toute dernière question, Annibal, elle n'est pas facile parce qu'on n'a qu'une minute. Ah. La haine et le déni, en résumé.
Non, je ne vous donnerai pas l'explication de mon titre, cher Fabrice, parce que c'est justement, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver, j'ai réussi à trouver ce titre intemporel, mais qui sont pour moi deux sentiments très humains, le sentiment de haine, le sentiment de déni. Mes lecteurs comprendront quand ils le liront, il y a de tout dans cette guerre. Il y a de la haine, il y a du déni, mais tout simplement ce que je voulais mettre en exergue, c'est que voilà, moi ce qui m'intéresse, ce sont les humains. C'est eux qui subissent la guerre, et c'est pas nous qui la commentons bien tranquillement. Et cette guerre est loin d'être terminée, malheureusement.
Merci infiniment, Anniva, d'être venue nous éclairer sur cette question du bureau Bidjan. J'imagine que pas mal d'auditeurs ont découvert cette histoire qui n'est pas forcément connue.
D'y retourner.
Eh bien, je dis allons-y. Non, allez-y. Merci. Merci, Anne. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Bureau Bidjan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.